France Musique. France Musique, les grands entretiens, Anne Montaron.
Je m'appelle Élise, Josette, Louise, Angèle, Caron. Je suis chanteuse, j'écris, je compose, j'interprète le plus souvent. Je joue la comédie. Et puis quoi d'autre ? Je vis.
Nymphs and shepherds, come away, come away. Nymphs and shepherds, come away, come away, come, 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 come away.
Élise Caron, vous nous avez permis de parcourir votre enfance, votre adolescence, les études au Conservatoire de Rouen, les études de flûte, de chant, d'art lyrique et aussi d'art dramatique. Il y a eu cette expérience, cette première expérience au cinéma, donc Cocktail Molotov. Vous avez 17-18 ans. Quand est-ce que vous arrivez à Paris alors ?
Au même âge. En septembre 79, je passe le concours d'entrée au Conservatoire de Paris en chant, que j'ai. Et je pensais naïvement que je pouvais avoir deux carrières distinctes. D'un côté le chant et de l'autre côté de poursuivre en parallèle la comédie et le chant. Et puis ça s'est passé un petit peu autrement.
C'était pas possible dans le conservatoire de l'époque.
J'ai demandé quelques congés pour faire mon métier de comédienne. Pas beaucoup, mais suffisamment. Qui m'ont toutes été accordées d'ailleurs. Suffisamment pour que ça pose un problème. Et au bout de la deuxième année, à la fin de l'année 80, ma prof m'a gentiment demandé de démissionner. J'étais la plus jeune de la classe et puis à l'époque j'étais habillée, je dirais pas punk, hein, j'étais pas punk, mais j'avais les cheveux très courts et des pantalons rayés et des chaussures rouges pointues un peu à la manière des fous du roi. Et donc ça faisait un petit peu tache, je crois, au conservatoire. Et surtout, j'ai pas compris. J'ai pas compris où est-ce qu'elle voulait m'emmener. Rien n'allait. Ma technique n'allait pas. Je pense pas que j'avais une technique particulière, en fait. Je pense que j'avais un médium un peu blanc. Comme j'avais été très jeune à commencer le chant, c'est des choses qui allaient peut-être venir petit à petit s'installer tranquillement, de façon naturelle presque. Mais je comprenais pas du tout ce qu'elle essayait de me dire, ça me devenait étranger. C'est-à-dire que rien, que n'importe quel geste que je faisais, je m'entendais dire non, non. Mais elle ne me donnait pas forcément de moyen d'accéder à ce qu'elle essayait de me faire comprendre. J'aurais bien aimé, en fait, continuer, mais changer de professeur.
Et ce n'était pas possible.
J'ai pas eu l'idée, en fait. Parce qu'à la fin de l'année 80, j'allais avoir 19 ans, j'ai obéi. Elle m'a dit « casse-toi », j'obéis. Enfin, elle ne m'a pas dit ça comme ça, mais comme j'étais comédienne, je pouvais faire des comédies musicales, je pouvais... Et à l'époque, les comédies musicales, je trouvais ça nul. En fait, je n'aimais pas du tout. Donc, c'était presque injurieux qu'elle me dise que... Puisque j'étais comédienne, je pouvais faire des comédies musicales. Et que j'avais pas une voix à chanter du Wagner. Et si ça avait été le cas, elle se serait accrochée. Et que du coup, je prenais la place d'autres gens. Ce qui est toujours assez désagréable à entendre quand on a 19 ans. Donc je suis partie. Et puis voilà, j'ai vogué.
Oh,
verstehen und gleich nach meiner Liebst hören. Und wenn ich ihn nicht finden kann, leg wieder mich zum Schlafen dann, leg wieder mich zum Schlafen
J'ai rencontré des personnes qui sont toujours des êtres très chers.
Alors, quelle première rencontre
La première a été rencontre, c'était avec Bruno Gillet, qui connaissait une pianiste qui était au conservatoire, qui s'appelait Claude Lavoie, qui était une femme extraordinaire, qui m'avait certainement repérée, je pense, et qui avait parlé de moi à Bruno parce qu'il cherchait des chanteuses et comédiennes, pour le coup, pour faire une comédie musicale, mais un peu genre musicale des années 20. Et l'histoire se passait dans un club réservé aux hommes, et tout était joué par des femmes. Forcément, c'était plutôt super sympa. Donc j'ai passé ce casting, j'ai chanté une chanson de l'époque, Froufrou ou quelque chose comme ça. Et Bruno a flashé sur ma voix, vraisemblablement. Et m'a demandé d'enregistrer toutes les voix de tous les rôles de cette comédie en question qui s'appelait Le Club. Et j'ai tout enregistré. Et ça a été un pied, mais... Je faisais les duos, je faisais les chœurs, j'ai tout fait. Et ça a été vraiment le début d'une collaboration très, très forte avec Bruno, qui a écrit pour moi. Et notamment, la première chose qu'il a écrite pour moi s'appelait les 7 monodies, qui sont splendides, pour
cymbalum
et voix. Mais j'ai un souvenir magnifique. Et cette musique, sa musique, là, pour le coup, vraiment contemporaine. Et je me suis aperçue qu'on pouvait rentrer dans une musique contemporaine sans la juger pour autant un télo. Et que la musique, quelle qu'elle soit, quand il y a moyen d'y mettre de la chair, ça veut dire de l'émotion, ça veut dire de l'esprit, ça veut dire... La beauté, quoi, en fait.
Acuta fra le foglie degli alberi, la dolce cicala di sotto le ali, fitto vibra il suo canto.
C'était Élise Caron, les voix que vous aimiez à l'époque, les voix lyriques que vous aimiez.
Alors mon père m'a fait découvrir Kathleen Ferrier. C'est vraiment, alors c'est ça qui est fou, c'est que moi j'aimais pas les voix lyriques, je trouvais que c'était trop...
Le vibrato...
Voilà,
le...
C'était trop, ça me paraissait pas naturel. Et puis Kathleen Ferrier est arrivée sur, sur son cheval blanc, et je trouve qu'elle avait pas une voix lyrique, elle avait une voix brute, elle avait une voix qui était très très dense, très intense, très dense... avec un timbre vraiment particulier, pas du tout habituel. Il y a eu elle, il y a eu Cathy Berberian, évidemment, elle aussi parce que c'était un clown, et qu'elle faisait autre chose que du lyrique, qu'elle faisait l'imbécile, qu'elle avait chanté du Beatles, et qu'elle avait fait elle avait chanté un truc que j'avais entendu une fois, qui était... elle chantait comme une grande tante qui, après le repas, chante un truc faux. Donc, elle a enregistré Nymph and Shepherds faux. Juste à la limite, un peu trop haut ou un peu trop bas. Et c'est très, très drôle. Très, très drôle.
Boing! You stupid kite, get down out of that tree! Kite, kite, kite! Chomp, chomp, chomp! Clam, clang, clack, 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 clack! Chomp, chomp! Crunch, crunk, crack, crackle! Up, barf, gosh! Deling, deling, deling! Tling, tling, ting, tinkle, tring.
Il y a eu elle et il y a eu aussi Elisabeth Schwarzkopf, qui est vraiment magnifique. Christa Ludwig. Mm-hmm. Qui d'autre? Mon grand-père aimait beaucoup, et je ne vais pas retrouver son nom.
Française
Anglaise.
Anglaise?
Ouais, anglaise.
Felicity Lott.
Oui, Felicity Lott. Donc il y avait des voix comme ça qui ont traversé mes oreilles.
Par contre, à cette époque, donc, dans la classe de chant, vous avez sans doute chanté la mélodie française et les mélodies de Stravinsky, Barber. Non, pas du tout.
Non. J'ai souvenir d'avoir peiné. D'avoir pas compris, d'avoir peiné. Et en même temps, de temps en temps, je venais toute seule et je m'installais dans une classe où il n'y avait personne, avec un piano, et je faisais des petits thèmes au piano. Des trucs. Et il y en avait un que j'ai composé à l'époque qui m'a resservi 15 ans plus tard pour faire une chanson. Donc ça, c'était des moments seuls où j'avais l'impression de me plonger dans le travail de compositrice, alors que j'imaginais pas du tout en faire quelque chose. J'avais pas du tout de vision, en fait. J'avais juste une envie de faire des trucs. Je voulais bien...
Je retrouve ce truc.
Oui.
C'était ça, je crois, hein. C'est presque des trucs comme ça. C'est des mélanges entre la main gauche
et la main droite, et de faire tricoter les mains l'une sur l'autre. Comme j'avais pas de technique, ça pouvait donner l'impression que j'en avais, faire des trucs qui ont l'air un peu véloces comme ça.
On retrouve là votre goût, votre fascination pour les motifs répétitifs.
Ouais.
Qui traversent un peu votre musique.
C'est vrai.
Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs.
Le premier, c'est Incy de Terry Riley qu'on écoutait. Ça, c'était fascinant, ça.
À la maison, fascinant. Alors, vous l'écoutez,
ouais,
à la maison. Alors,
Alors, il y a un truc que j'ai oublié de dire quand même. Je voulais rendre hommage à ma mère, c'est que c'est elle qui m'a, c'est elle qui m'a fait faire du piano, qui m'a fait faire, qui m'a fait rentrer au conservatoire, fait de la flûte, qui m'a dit oh, tiens, est-ce que tu voudrais pas faire du chant l'année prochaine? Je dis ouais, mais j'avais pas d'idée. C'est elle qui m'a vraiment mise sur ce chemin-là.
Balancier, patatras s'est envolé, les ont jetés, l'œil s'est rivé en arrière, nananerné, année face à la poussière, faut se réveiller, se rembobiner. C'est un jeu de patience, c'est le jeu des nous.
Musique, les grands entretiens d'Élise Caron.
Alors justement, là, quand vous êtes virée du Conservatoire de Paris, la CNSM, c'est un peu le saut dans le vide, non ? Il y a le théâtre, il y a le cinéma.
Tout s'arrête.
Tout s'arrête ?
Ouais, tout s'arrête en même temps. Tout s'arrête. J'ai plus de travail.
Et vous avez 18-19 ans, donc vertige ?
J'ai 19 ans. Alors, si, je fais du théâtre, je fais une pièce de Shakespeare, La Tempête de Shakespeare, mise en scène par François Martouret. C'est ma première, c'est en 80, donc là pour le coup, c'était justement à cause de ça que j'ai arrêté le conservatoire, c'est qu'il y avait des répétitions et des machins de ce genre. Et donc je sors du conservatoire, je fais cette pièce. Je rencontre le père de ma fille, je fais cet enfant en 1982, Gala, et là c'est à ce moment-là que tout s'arrête, enfin tout s'arrête, tout commence, parce que élever un enfant c'est merveilleux, mais j'ai plus de propositions de travail vers 85-86.
Bah, vous avez fait
j'avais plus de boulot.
Gala très jeune, quand même.
Oui.
Donc, ce genre d'expérience de la maternité, en tout cas très jeune, fait qu'il y a forcément des choses qui se cristallisent autour de la vie de famille et qui empêchent peut-être certaines choses d'advenir au niveau professionnel. Vous l'avez ressenti comme ça ou pas ?
Non, ce que j'ai ressenti, c'est que en même temps que le bonheur d'être mère, c'est la vie de famille qui s'est complètement disloquée.
Il est très tard.
Là, dès lors ?
Il est très tard, il est 11h25.
Là, dès lors ?
Oui.
Il est 10h30.
Là, dès lors ? 11h25. L'heure de faire dodo ?
Là, dès lors ? 10h30.
Oui.
À quelle heure ?
Je te le dire, ma belle.
Il est tard.
Il est plus de 10
heures. Il est très tard.
Il est très tard.
Quelqu'un ? Oui.
Quelqu'un ?
Il est très tard, oui.
Elle a dit l'heure ? Je viens de te le dire, il est 10h30 pour faire dodo maintenant.
À quelle heure ?
L'heure de faire dodo.
Elle a dit l'heure ? 10h30. Il est très tard. Très tard, il faut dormir maintenant, ma chérie.
Et je crois savoir que la rencontre avec Luc Ferrari s'est faite à cette époque-là, en 1983. Vous
oui,
avez chanté dans Journal Intime, c'est ça ?
Oui, alors j'ai rencontré en 1900, ça fait partie aussi des films que j'ai fait. J'ai fait un film avec Liliane de Kermadec, et j'avais pour mère cette actrice magnifique. Voilà, je jouais la fille de Delphine Seyrig. Et j'avais dit que je chantais. Et celui qui faisait la musique s'appelait David Gis, qui n'est plus de ce monde depuis l'année dernière. Et il avait besoin d'enregistrer une chanson pour le générique de fin. Ce que je fis dans un studio qu'il partageait avec Luc Ferrari, que j'ai rencontré derrière la vitre, que je ne savais pas que c'était lui. Et en 83, donc, Gala avait quelques mois, il m'invite chez lui et me demande de jouer dans son spectacle Journal Intime. Et voilà, j'ai commencé à le rencontrer en 83 au Musée d'Art Moderne. Voilà, Luc, ça a été le début d'une grande aventure. Il a écrit plein de choses pour moi. Et là, je pouvais vraiment faire la comédienne. Ça a été une espèce de mentor accueillant, tellement accueillant, tellement friand de toutes les bêtises que je pouvais dire. Lui et Brunhilde, sa femme, Brunhilde Ferrari, que j'adore, que j'embrasse. Et voilà, ce couple a été une espèce de soleil dans ma vie, parce qu'ils étaient très poétiques. Chez eux, c'était les murs, il n'y avait pas un mur qui était peint pareil, c'était que des pastels très très clairs, et ça faisait un truc un peu à peine, tout était avec énormément de goût, quoi. Tout était raffiné et à la limite du kitsch, à la limite du mauvais goût et jamais dans le mauvais goût. Et voilà, c'était vraiment un couple phare. Et sa musique qui m'a permis vraiment de m'épanouir sur scène. Et sa musique, pareil, vraiment très organique, très charnelle, très mystérieuse, flottante. Encore un genre dans lequel je pouvais me baigner, en fait. Soit avec Bruno, autrement, avec Bruno Gillet, Luc Ferrari. C'était deux personnalités qui ouvraient un spectre de sons et d'ambiance et d'esprit très fort et vraiment très accueillant, très magique, très particulier. Et faire ces musiques, les chanter, c'était me rendre service, en fait. Parce que de me le prendre pour moi, de l'incarner, de le faire mien, c'était comme si ces musiques-là m'appartenaient, comme si je les avais faites, quoi, non, presque. Non. En tout cas, j'avais l'impression de rentrer dans un univers qui me parlait. Voilà.
Musique organique, charnelle, mystérieuse, flottante. C'est exactement ce qui caractérise cette chanson pour le corps de Luc Ferrari, chantée par Élise Caron. Ainsi se referme le troisième volet de ces grands entretiens réalisés par Anne-Pascale Desvignes avec Marie Le Peintre, Yves Lehorse, Marie-Christine Ferdinand, Aude Vassan. Quatrième épisode de ce portrait en mots et en musique, demain à la même heure.
À réécouter sur francemusique.fr.